RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie, la rubrique suivante, magazine culturel. Et nous allons également présenter l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, voici le bulletin de l'information. Tout d'abord, les titres. Visite l'Indonésie, le premier ministre Mahathir a discuté de l'intensification de la coopération économique. Le vice-président Yusuf Kalla apprécie la mise en œuvre des élections régionales simultanées. Le gouvernement coordonne la création du centre de santé animale de l'ASEAN. L'Indonésie soutient l'universalité de la destruction des armes chimiques aux Pays-Bas. La coopération entre l'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique BMKG et l'Agence météorologique américaine NOAA pour la prédiction du climat une année. Voici le bulletin complet. Le premier ministre de Malaisie, Mahathir Mohamad, a effectué une visite d'État en Indonésie pour 2 jours, les 28 et 29 juin. Son arrivée à Jakarta jeudi après-midi, le 28 juin, a été accueillie par le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, et la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, à l'aéroport Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Lors d'une réunion bilatérale le vendredi 29 juin, le président Joko Widodo et le premier ministre Mahathir ont discuté de plusieurs questions importantes liées aux deux pays, y compris l'amélioration de la coopération du commerce et l'investissement. C'est ce qu'a été déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Arman Atanasir, lors d'une conférence de presse tenue jeudi 28 juin à Jakarta.
Beberapa poin yang menjadi perhatian dalam pertemuan kedua kepala negara antara
des questions qui seront discutées à la réunion des deux chefs d'État en autres sur des efforts pour améliorer la coopération économique, en particulier dans le commerce et l'investissement. Le commerce entre les deux pays en 2017 a atteint environ 17,2 milliards de dollars américains. La Malaisie est le 7e plus grand partenaire dans le commerce. Dans le contexte de l'investissement, la Malaisie est également le 8e plus grand investisseur de l'Indonésie en 2017 avec une valeur d'investissement d'environ 1,2 milliard de dollars américains. Selon Arman Atanasir, le président Joko Widodo et le premier ministre Mahathir discuteront également des efforts de partenariat Indonésie-Malaisie dans la lutte pour l'accès des produits de l'huile de palme, sur le marché dans l'Union européenne. Il est basé sur les similitudes entre l'Indonésie et la Malaisie en tant que premier et deuxième producteur d'huile de palme au monde. Le palmier à huile a un grand impact sur la réduction de la pauvreté et l'amélioration du bien-être des populations dans les deux pays. En outre, le président Joko Widodo soulèvera également la question de la protection des citoyens indonésiens en Malaisie, qui s'élève à 2,5 millions de personnes. Outre les questions bilatérales, les deux dirigeants discutent de diverses questions régionales et mondiales d'intérêt pour les deux pays, y compris le concept architectural de la région Indo-Pacifique et la question palestinienne. Le vice-président Yusuf Kalla a exprimé son appréciation à toutes les parties, à savoir la commission électorale KPU, l'armée, la police et des personnes qui ont succédé à l'élection le mercredi 27 juin, qui se déroule de manière sûre et transparente sans perturber la sécurité. Les gens attendent maintenant les résultats de la commission électorale ou KPU. La première est notre appréciation que cette élection est pacifique, que tout est transparent et que les gens sont heureux. Il n'y a pas beaucoup de pays comme ça. Je pense que nous attendons la décision de KPU parce que le compte rapide n'est qu'un indicateur, ne spécifie pas le résultat final. Je pense que nous attendons les résultats du KPU. En ce qui concerne un certain nombre de candidats au poste de chef régional qui obtiennent plus de votes par rapport aux résultats d'un sondage avant les élections, le vice-président Yusuf Kalla estime que les votes obtenus par les candidats au poste de chef régional sont également influencés par le parti. Ils sont également soutenus par l'action directe des bénévoles qui sont directement impliqués pendant la campagne. Le gouvernement indonésien, à travers le ministère de l'Agriculture, a tenu une réunion de coordination du Centre de santé animale et Zunus au niveau de l'ASEAN, ACCAHZ, qui est considéré comme important afin de protéger la santé et la communauté de l'Asie du Sud-Est. Le directeur général de l'élevage et de la santé animale du ministère de la Santé, Iketut Diarmita, a déclaré jeudi que l'événement qui s'est tenu à Yogyakarta du 27 au 29 juin 2018 a été assisté par tous les pays membres de l'ASEAN, le secrétariat de l'ASEAN et le représentant de FAO régional Asie-Pacifique. Iketut Diarmita exprime l'importance de créer ACCAHZ en tant que manifestation de la détermination et de l'engagement de l'ASEAN à protéger la santé publique et la santé animale. En outre, comme le centre de santé et assurer la rapidité de réponse des incidents liés aux cas de maladies animales et de zoonoses, notamment les maladies animales transfrontalières dans la région de l'ASEAN. L'Indonésie encouragera la création d'une approche globale pour lutter contre le terrorisme, y compris le renforcement de la coopération sur le traitement du terrorisme chimique dans divers forums de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC, comme l'a déclaré le représentant permanent de l'Indonésie auprès de l'OIAC, l'ambassadeur I Gusti Agung Wesake Puja, à la session extraordinaire de la conférence des États parties KSK à La Haye les 26 et 27 juin. Mahmoudine Nur Al-Ghazali, le deuxième secrétaire à la fonction politique de l'ambassade d'Indonésie à La Haye, a déclaré à Londres vendredi qu'en tant que membre du conseil exécutif de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et le membre du conseil de sécurité de l'ONU, à partir de janvier 2019, l'Indonésie continuera à jouer son rôle de manière constructive dans l'interdiction des armes chimiques en particulier et encouragera l'amélioration synergique de partenariats mondiaux pour maintenir la paix et l'ordre du niveau international en général. L'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique BMKG, en collaboration avec l'Agence météorologique américaine NOAA, pour produire une prédiction plus précise du climat de l'année à venir. Le chef de BMKG, Dwi Korita Karnawati, à Jakarta, a déclaré jeudi que cette coopération pour améliorer la puissance analytique et l'analyse numérique de compiler un algorithme basé sur les données. On souhaite que cette coopération puisse améliorer la qualité des données plus rapide et plus précise. Selon Dwi Korita, BMKG est capable de produire des prédictions climatiques pendant 6 mois et que l'Agence nationale de planification de développement BAPENAS a utilisé cette prévision pour la planification du développement ainsi que les agriculteurs et les pêcheurs pour la saison des plantations. Avec cette coopération, il y a l'augmentation de l'équipement et de l'observation dans l'océan Indien. On espère que la coopération produira des données plus précises pour l'année prochaine. La coopération entre BMKG et la NOAA a été débutée depuis 2006 pour l'observation dans l'océan Indien et des ateliers pour l'amélioration des ressources humaines du BMKG. Chers amis, c'était le bulletin de l'information de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Chers amis, la Voix de l'Indonésie organise un nouveau quiz international 2018. Les gagnants seront invités à visiter l'un des sites touristiques en Indonésie en septembre 2018. Pour savoir plus les informations du quiz, écoutez La Voix de l'Indonésie diffusée en streaming sur www.voixnews.id ou sur l'application de RRI Play. La Voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Les commentaires, les points de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers amis, nous continuons notre émission avec le commentaire et un beau titre, la visite du prince William en Palestine. Le deuxième héritier du trône du Royaume-Uni, le prince William, cette semaine visite les 3 pays du Moyen-Orient. Des visites dans cette région qu'il a commencé la Jordanie se sont poursuivies en Israël lundi 25 juin. Lors d'une visite en Israël, le prince William a rencontré le premier ministre Benjamin Netanyahu et le président israélien Reuven Rivlin. En plus de rencontrer d'importants responsables israéliens, le prince William est également en pèlerinage sur la tombe de son arrière-grand-mère, la princesse Alice. C'est devenu la première visite d'un membre de la famille royale britannique en Israël. Un diplomate britannique en Israël a nié que la visite était politiquement chargée. Cependant, après la visite du prince William en Israël, une déclaration a été rédigée par le bureau du président d'Israël qui a demandé au prince William d'apporter un message de paix au président palestinien Mahmoud Abbas, qui a ensuite visité l'Israël. Un message qui pourrait être plus d'une petite discussion parce que la position de Rivlin en tant que président est cérémoniel. Au contraire, le premier ministre Netanyahu n'a confié aucun message à William. Arrivé en Palestine le mercredi 27 juin, le prince William a rencontré le président Mahmoud Abbas e a qualifié la Palestine comme l'État. Bien que ne faisant pas de commentaires directs sur le lapsus de langue, le ministère britannique des Affaires étrangères a publié une déclaration selon laquelle le gouvernement britannique soutient la création d'un État palestinien souverain et indépendant aux côtés d'Israël. La Grande-Bretagne reconnaîtra l'État palestinien à temps et contribuera à la paix. La Grande-Bretagne était le détenteur du mandat des Nations Unies sur la terre de Palestine après la Première Guerre mondiale jusqu'à l'émergence de l'État d'Israël en 1948. Nous attendons qu'une déclaration d'un État palestinien par le prince William, bien que n'ait pas encore une valeur politique, ajoute un soutien à la création d'un État palestinien. Certains pays européens ont déclaré la Palestine un État. L'Indonésie, qui a gagné la confiance de siéger en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU en 2019, devrait encourager l'accélération de la création d'un État palestinien à travers divers forums, alors que dans le temps, les idéaux de la formation de l'État palestinien et de la paix dans la région du Moyen-Orient ne sont pas seulement en discours. Jérémy, c'était le commentaire.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 29 juin. Le 29 juin 1949, l'événement de Jogja retour. L'indépendance de la République d'Indonésie était déjà proclamée depuis le 17 août 1945. Mais depuis lors, les Hollandais ne quittent pas encore l'archipel. Juste le 29 juin 1949, tous les Indonésiens peuvent se libérer de l'emprise hollandaise. À la suite de l'accord de Roem-Royen, le 29 juin 1949, les troupes néerlandaises se retirèrent à l'extérieur de Yogyakarta et l'armée nationale d'Indonésie entre à Yogyakarta. L'incident des troupes hollandaises et l'entrée de l'armée nationale d'Indonésie à Yogyakarta était connu sous le nom de Jogja Retour. Le président Sukarno et le vice-président Muhammad Hatta vinrent à Yogyakarta le 6 juillet 1949. Le 29 juin 1966, la première attaque américaine au Vietnam. Après une crise politique au Vietnam Sud et la menace des attaques des forces communistes nord-coréennes, le président américain Lyndon B. Johnson a finalement ordonné la première attaque aérienne au Vietnam Nord. L'armée de l'air des États-Unis a attaqué des dépôts de carburant à Hanoï et à Haiphong. L'attaque était une forme de soutien américain au gouvernement sud-vietnamien qui a été attaqué par le Vietnam Nord. Les troupes américaines étaient présentes au Vietnam Sud jusqu'en 1975 et finalement le Vietnam Sud et Nord s'est uni en 1976 à la République socialiste du Vietnam. Le 29 juin 1995, Atlantis, la première navette spatiale américaine, a rejoint Mir de la Russie. 20 ans après la rencontre entre Apollo et Soyouz dans l'espace, la navette spatiale américaine Atlantis est devenue, le 29 juin 1995, la première navette spatiale américaine a entré sur le quai de la station spatiale russe Mir. Le commandant de l'Atlantis, Robert Hood Gibson, est le commandant de mire Vladimir Dejurov. Se sont rencontrés sur un véhicule situé à environ 395 km au-dessus de la surface de la Terre. 10 membres d'équipage de l'espace de la Russie et des États-Unis ont vécu ensemble jusqu'au 4 juillet 1995 à la station spatiale Mir. Cette réunion marque le début de la coopération spatiale internationale et la construction d'une station publique appelée Alpha. Chers amis, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers amis, nous continuons notre émission avec mon Indonésie et en peut-être, l'Indonésie et le Japon ont tenu une réunion du 6e dialogue stratégique. La ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Retno Marsudi, a reçu une visite du ministre japonais des Affaires étrangères, Taro Kono, le lundi 25 juin à Gedung Pancasila, le ministère des Affaires étrangères, Jakarta. La première visite du ministre Taro Kono en Indonésie vise à mettre en œuvre la 6e réunion du dialogue stratégique Indonésie-Japon, qui coïncide avec le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et le Japon. La réunion implique le ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, le ministère de la Coordination des Affaires maritimes, le ministère des Affaires économiques et le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche de la République d'Indonésie. Selon un communiqué de presse reçu par la Voix de l'Indonésie, la réunion a pour but de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la politique et de la sécurité, de l'économie, du commerce et des investissements, des relations interpersonnelles et d'explorer les possibilités de coopération stratégique entre les deux pays. Les deux ministres des Affaires étrangères ont discuté également de questions régionales et mondiales qui concernent les deux pays. Les deux ministres ont identifié une coopération stratégique qui sont réalisées par l'intensification de la coopération bilatérale. Le Japon est un partenaire stratégique pour l'Indonésie et les deux ministres des Affaires étrangères sont d'accord sur l'importance d'améliorer la coopération dans le domaine de l'investissement, en particulier dans les infrastructures. Ils ont convenu d'explorer la possibilité de faire l'Indonésie comme une base de production pour les produits manufacturés japonais destinés aux marchés tiers, y compris les marchés des pays de l'ASEAN. En outre, il a également été convenu de l'importance d'encourager l'achèvement des négociations mutuellement bénéfiques de la révision générale de l'accord de partenariat économique entre l'Indonésie et le Japon. L'année 2018 est considérée comme le moment idéal pour l'achèvement des négociations dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et le Japon. En ce qui concerne le changement climatique, les deux ministres apprécient la coopération du mécanisme de crédit conjoint qui a été établi jusqu'à présent et ont convenu que la mise en œuvre de la coopération devrait apporter une valeur ajoutée et améliorer la capacité de l'Indonésie à gérer les impacts du changement climatique. Les deux ministres des Affaires étrangères ont également convenu de l'importance d'encourager la coopération sud-sud et triangulaire pour renforcer le soutien au développement économique en Palestine et dans d'autres pays africains. Ils ont apprécié les développements positifs sur la péninsule coréenne qui devraient apporter la paix et la stabilité dans la région. En ce qui concerne la mer de Chine méridionale, les deux ministres des Affaires étrangères ont également exprimé leur préoccupation au sujet de la militarisation dans la région de la mer de Chine méridionale. Par conséquent, on souhaite que les négociations liées au code de conduite soient bientôt achevées. Les deux ministres ont convenu de la synergie entre le concept Indo-Pacifique de l'Indonésie avec le concept La stratégie pour un océan Indo-Pacifique libre et ouvert du Japon. La synergie est créée par le renforcement de la coopération bilatérale et le renforcement de la coopération par le mécanisme régional tel que l'ASEAN, le sommet de l'Asie de l'Est dans la région Océan-Pacifique et l'IORA dans le cercle de l'océan Indien. À cette occasion, les deux ministres ont assisté à la signature de l'échange de notes sur les centres intégrés de la pêche et de la mer et le marché du poisson pour renforcer la coopération dans le développement des centres de pêche sur 6 îles indonésiennes, à savoir Biak, Moa, Morotai, Natuna, Sabang et Saumlaki. Cher ami, c'était mon Indonésie.
Chers amis, la voix de l'Indonésie organise un nouveau quiz international 2018. Les gagnants seront invités à visiter l'un des sites touristiques en Indonésie en septembre 2018. Pour savoir plus les informations du quiz, écoutez La Voix de l'Indonésie diffusée en streaming sur www.voinews.id ou sur l'application de RRI Play. La Voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voines.id/french.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia. Chers amis, nous continuons notre émission avec le Magazine Culturel en produisant la cascade Melaten à Ponorogo. Donc, restez toujours avec nous. Le service mondial de Radio République Indonésie, La Voix de la Tunisie. La région Ponorogo se trouve en province Javaès, l'Indonésie. Ici, il y a beaucoup d'attractions touristiques qui sont bien connues et qui ne sont pas très au courant. L'un des moins connus est la cascade Melaten. Nommé cascade Melaten parce qu'il est situé au Amo Melaten, au village Temon, district Sawo. En plus d'être connu sous le nom de la cascade Melaten, la communauté environnante mentionne également cette chute d'eau avec le nom la cascade Kalikokok parce qu'il est situé dans le flux de la rivière Kokok. La chute d'eau Melaten dépend des précipitations. Si les précipitations sont abondantes, le débit d'eau sera lourd et rendra la cascade Melaten belle. Mais inversement, si la saison sèche, le débit d'eau est si petit et bien sûr la beauté de la cascade est également réduite. Cette cascade a une hauteur d'environ 20 mètres. Mais elle a ses propres caractéristiques, à savoir la forme et la texture de l'eau de pierre étant coulée par l'eau et la disposition de la pierre qui est si intéressante. Les visiteurs peuvent profiter du bruit des chutes d'eau, des vues sur les collines verdoyantes et les rizières comme un tapis vert assis sur le rocher autour de cette cascade. En plus de la beauté des paysages, la cascade Melaten a un caractère unique, à savoir une petite caverne sur elle coulée par l'eau de lava. Se rendre à l'emplacement de la cascade Kokok n'est pas trop difficile, mais vous devriez arriver dans la saison des pluies, que les intensités de pluie sont rares. En plus, vous devez donner l'attention si lors de la visite, tout à coup il y a la pluie. Immédiatement, vous laissez l'emplacement autour de la cascade, car il est à craindre que se produisent des glissements de terrain. Avant de visiter la cascade Kokok ou la cascade Melaten, vous devriez préparer votre physique. Pour atteindre la chute d'eau Kokok ou Melaten, du parking, vous devez encore marcher jusqu'à 700 mètres. Par conséquent, en plus d'un excellent physique, vous devez également préparer d'autres équipements tels que des chaussures qui ne sont pas glissantes et de la nourriture et des boissons. Parce que dans la région de cette chute d'eau, il n'y a pas d'état qui vendent de la nourriture et des boissons. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Warna-warni. L'Indonésie en couleur présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur et en titre la Journée nationale de la famille 2018. Le décret présidentiel numéro 39, le 15 septembre 2014, a fixé la Journée nationale de la famille au 29 juin de chaque année. La commémoration de la Journée nationale de la famille a été célébrée pour la première fois en province Lampung. Cette année, la célébration a eu lieu en ville Manado, précisément en zone Puankasi, aux régions Megamas, dont le thème est Hari Keluarga, Hari Kita Semua, ou la Journée de la Famille, le jour de nous tous, dont le slogan est Cinta Keluarga, Cinta Terencana, ou Aimer la Famille, Amour Prévu. Le sens du thème est que l'amour dans la famille et la planification dans la construction d'une famille sont importants. La Journée nationale de la famille vise à rappeler les Indonésiens de l'importance de la famille en tant que source de force pour construire la nation et l'État. Selon le chef de l'Agence nationale de démographie et de planification familiale, BKKBN, de la province Kalimantan Central, Kusnadi, la Journée nationale de la famille a rappelé les familles de leurs devoirs, parce que c'est la famille qui produit la qualité humaine. Cette célébration annuelle vise à accroître la participation du gouvernement local, des partenaires et du secteur privé à l'importance des fonctions familiales. Avant le projet de l'événement, il y aura un certain nombre d'activités, entre autres, les services sociaux, comme le service de planification familiale, la circoncision de masse et le don de sang. Il y a aussi des traitements gratuits, des séminaires exécutifs nationaux, des séminaires sur la santé, des culinaires, le marché sain et gymnastique ensemble, et la cérémonie de remise des prix. Ces activités sont organisées en deux endroits, à savoir Minahasa et Manado. Selon le secrétaire provincial Edwin Silangen, à l'apogée de la commémoration, le président Joko Widodo décernera le prix Satya Lencana Pembangunan et une bourse d'études. En outre, dans la série d'événements, on a également tenu le parc de famille, qui contient entre autres le petit déjeuner ensemble, la salle de consultation familiale et médicale, la salle de jeu pour les enfants, les mariages de masse, le dialogue interactif avec le président Joko Widodo, l'exposition, le bazar et les divers arts de divertissement. La célébration de la Journée nationale de la famille est différente de l'avant, dans laquelle la partie des événements cérémoniels formels sera moindre, tandis que la partie de l'événement occasionnel non formel sera élargie. La Journée nationale de la famille donnera la priorité à la joie et la solidarité de la famille indonésienne. Thank you. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur. Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir tout le monde, encore avec moi Tiwi, dans la rubrique du magazine musical. Cette fois, la voix de l'Indonésie va vous présenter les chansons régionales de Kalimantan du Sud. Restez avec nous à RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie à www.voinews.id. Écoutons maintenant la chanson intitulée Sungai Martapura. Chers amis, vous venez d'écouter la chanson chantée par Emilia Agus, s'intitule Sungai Martapura, qui signifie la rivière Martapura. C'est l'une des chansons en langue banjar. La chanson créée par Haji Sharifuddin MS est la chanson la plus célèbre parmi les chansons de ses autres créations. Cette chanson a été faite après Sharifuddin MS assis sur le pont près de la rivière Martapura. Après s'être relaxé là, il a été inspiré pour faire la chanson intitulée Sungai Martapura. Alors, la suite, je vous présente la chanson dont le titre est Kapal Api Gandengan 2. Bonne écoute! chanson chantée par Solihati s'intitule Kapal Api Gandengan 2. Cette chanson a été créée en 1962 par l'orchestre Rindang Banua. Elle raconte d'un navire transportant des passagers et des marchandises. Alors, chers amis, avant de parler plus des chansons régionales de Kalimantan du Sud, écoutons la chanson intitulée Sapu Tangan Babuncu Ampat.
C'était des chansons indonésiennes, ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9.5 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.